l'Inde et l'ordre quaternaire brahman, kshatriya, vaishya, shudra. Lors de l'étude des sociétés d'ordres européennes, nous avons noté que les premiers textes formalisant l'organisation trifonctionnelle de la société, avec une classe religieuse, oratores, une classe guerrière, bellatores, et une classe laborieuse, laboratores, ont vu le jour sous la plume d'évêques en Angleterre et en France autour du Xe et du XIe siècle de notre ère. Les origines trifonctionnelles de l'Inde sont beaucoup plus anciennes. Les Varna, qui désignent les grandes classes sociales fonctionnelles dans le système hindou, apparaissent déjà comme les quatre parties du dieu Purusa dans les textes religieux en sanskrit de l'époque védique, dont les plus anciens remontent au deuxième millénaire AEC. Mais c'est surtout le Manusmriti, ou code de loi de Manu, recueil de loi rédigé en sanskrit entre le deuxième siècle AEC et le deuxième siècle de notre ère, et sans cesse revisité et commenté depuis lors, qui constitue le texte fondamental. Précisons d'emblée qu'il s'agit d'un texte à vocation normative et politico-idéologique. Ses rédacteurs décrivent la façon dont ils considèrent que la société devrait s'organiser, et en l'occurrence, la façon dont les classes dominées et laborieuses doivent se conformer aux règles fixées par les élites religieuses et guerrières. Il ne s'agit en aucune façon d'une description factuelle ou historique de la société indienne de cette époque ou des époques ultérieures, qui comprenait des milliers de micro-classes sociales et de corporations professionnelles, et où l'ordre politique et social était remis en cause en permanence du fait des révoltes des classes dominées et de l'émergence régulière de nouvelles classes guerrières sorties du rang, porteuses de nouvelles promesses d'harmonie, de justice et de stabilité, plus ou moins suivies des faits, comme d'ailleurs en Europe chrétienne et dans les autres régions du monde. Le cœur du Manusmriti consiste à décrire les droits et les devoirs des différents varnas ou classes sociales, dont le rôle est défini dès les premiers chapitres. Il s'agit des brahmanes, qui assurent les fonctions de prêtres, de savants et de lettrés. Des kshatriyas, qui sont les guerriers chargés de garantir l'ordre et la sécurité de la communauté. Des vaishyas, qui sont les agriculteurs, les éleveurs, les artisans et les commerçants. Et des shudras, qui forment la classe des travailleurs les moins élevés, dont la seule mission est d'être au service des trois autres classes sociales. Il s'agit donc d'un système explicitement quaternaire et non ternaire, contrairement à l'ordre trifonctionnel théorique de la chrétienté médiévale. En pratique, le système chrétien comprenait toutefois des serfs jusqu'à une date avancée, au moins jusqu'au XIVe siècle en Europe de l'Ouest, et quasiment jusqu'à la fin du XIXe siècle dans l'Est du continent. Si bien que la classe des travailleurs comprenait en réalité deux sous-groupes, les travailleurs libres et les travailleurs serviles, comme en Inde. Précisons également que le schéma du Manusmriti est théorique, et que, dans les faits, les frontières entre Vaishya et Shudra, qui représentaient deux groupes de travailleurs de statut différent et de dignité inégale, pouvaient être brouillées dans la réalité sociale. Suivant les cas et les situations, on peut considérer qu'il s'agit approximativement d'une distinction entre agriculteurs propriétaires et travailleurs ruraux non propriétaires, ou bien entre paysans libres et serfs européens. Après avoir défini les quatre grandes classes sociales, le Manusmriti décrit longuement les rituels et les règles que doivent suivre les brahmanes, ainsi que les conditions de l'exercice du pouvoir royal. Le roi est en principe issu des kshatriyas, mais il doit s'entourer d'un groupe de conseillers composé de 7 ou 8 brahmanes, choisis parmi les plus sages et les plus savants. Il doit les consulter quotidiennement au sujet des affaires et des finances de l'État, et les décisions militaires les plus graves doivent en principe être prises avec l'approbation du brahman le plus illustre. Les vaishyas et les shudras sont évoqués de façon plus rapide. Le Manusmriti contient également des descriptions détaillées de la façon dont les tribunaux et les procédures judiciaires devraient fonctionner au sein d'un royaume hindou bien organisé, ainsi qu'un grand nombre de règles civiles, pénales, fiscales et successorales, par exemple concernant les parts d'héritage revenant aux enfants issus des différentes unions mixtes entre les quatre varnas qui sont déconseillées mais pas interdites. Le texte semble s'adresser principalement à un souverain qui établirait son royaume dans un nouveau territoire. Mais il concerne aussi les royaumes hindous déjà existants. Les barbares lointains sont évoqués, notamment perses, grecs et chinois, et il est précisé qu'ils doivent être considérés et traités comme des shudras, y compris s'ils sont des kshatriyas de naissance, car ils ne se sont pas conformés à la loi des brahmanes. Autrement dit, un étranger noble est l'équivalent d'un shudra tant qu'il n'a pas été civilisé par un brahman. De nombreuses recherches ont tenté de déterminer le contexte dans lequel ce texte a été rédigé, diffusé et utilisé. Le Manusmriti serait l'œuvre collective d'un groupe de brahmanes. Le nom Manu renvoie non pas à l'auteur historique du texte, mais à un législateur mythique des siècles précédant l'écriture du code, qui aurait élaboré et raffiné ce corpus théorique par étapes à partir du IIe siècle AEC. L'objectif était clairement de rétablir le pouvoir brahmanique, socle de l'harmonie sociale et politique de la société hindoue aux yeux des rédacteurs, dans le contexte politique particulièrement heurté qui fait suite à la chute de l'Empire Maurya, 322-185 AEC. Le pouvoir des brahmanes avait notamment été mis en cause au IIIe siècle AEC par la conversion au bouddhisme de l'empereur Asoka, 268-232. Le premier Bouddha, Siddhartha Gautama, qui aurait lui-même vécu à la fin du VIe siècle et au début du Ve siècle AEC, était, suivant la tradition, issu d'une famille de Kshatriya, et son modèle de vie ascétique, méditatif et monacal, constituait une forme de remise en cause de la classe cléricale brahmanique traditionnelle. La conversion au IIIe siècle de l'empereur Asoka, même si ce dernier semble s'être appuyé en pratique à la fois sur les prêtres brahmanes traditionnels et les ascètes bouddhistes, remettait notamment en cause une partie des rites et sacrifices animaliers pratiqués par les brahmanes. C'est d'ailleurs en partie en réaction à la concurrence ascétique bouddhiste et afin de rehausser leur prestige aux yeux des autres classes que les brahmanes seraient devenus strictement végétariens. Toujours est-il que le Manusmriti exprime clairement une volonté de mettre ou de remettre les lettrés brahmanes au cœur du système politique. Les auteurs du texte considèrent manifestement qu'il est temps qu'un vaste traité à la fois légal et politico-idéologique soit rédigé et diffusé afin d'assurer la pérennité de leur modèle de société. L'autre grief important que l'on voit poindre dans ce texte est lié au fait que les empereurs Maurya auraient eux-mêmes eu pour origine des chefs militaires sortis du rang et issus de basses classes de shudras. Ce même reproche était adressé par les brahmanes à de nombreuses dynasties qui se sont succédées en Inde du Nord avant et après que l'expédition d'Alexandre le Grand eut atteint le nord-ouest du sous-continent indien en 320 AEC. Le Manusmriti propose une organisation et des règles visant à sortir du chaos permanent et à remettre de l'ordre dans le système politique et social hindou. Les shudras doivent rester à leur place. Les rois doivent être issus des kshatriyas sous le contrôle étroit des lettrés brahmanes. En pratique, cette exigence des brahmanes que les rois soient issus des rangs des kshatriyas authentiques, qu'il est possible de lire plus prosaïquement comme une demande de soumission des rois et des guerriers, d'où qu'ils viennent, aux lettrés religieux et à leur sagesse, et de ne pas voir le pouvoir politique et militaire changer de main en permanence, ne sera jamais entièrement satisfaite. De même que, en Europe et dans toutes les sociétés humaines, les élites guerrières des différentes régions de l'Inde passeront leur temps à se renouveler et à se renverser les unes les autres. L'éternelle tâche des intellectuels, en Inde et ailleurs, sera de les discipliner, ou plus modestement, d'obtenir qu'elles leur témoignent un peu plus de respect pour leur vaste savoir. Le discours porté par les brahmanes dans le Manusmriti doit bien sûr s'analyser comme la pièce centrale d'un dispositif de domination sociale et politique. De même que le schéma trifonctionnel formalisé par les évêques dans l'Europe médiévale, le premier objectif est de faire en sorte que les classes inférieures acceptent leur sort de travailleurs sous le contrôle des prêtres et des guerriers. Dans le cas indien, une sophistication supplémentaire est la théorie de la réincarnation. Les membres du Varna le plus bas, les Shudras, ont la possibilité théorique de se réincarner comme membres de Varnas plus élevés. À l'inverse, les membres des trois premiers Varnas, c'est-à-dire les Brahmanes, les Kshatriyas et les Vaishyas, sont les deux fois nés. Leur cérémonie d'initiation est considérée comme une seconde naissance et leur vaut en principe de porter sur leur poitrine un cordon sacré, Yagyopavita ou Sacred Thread. On est à l'opposé d'une logique méritocratique et d'une vision hypertrophiée des talents et des mérites individuels. Chacun occupe la place qui lui est assignée afin de garantir l'harmonie sociale, comme les différentes parties d'un même corps, mais il pourrait fort bien en occuper une autre dans une seconde existence. Il s'agit d'assurer l'harmonie terrestre et d'éviter le chaos, tout en s'appuyant, certes, sur les apprentissages et les transmissions familiales des savoirs et des compétences, processus qui peut demander des efforts personnels et de la discipline, et comporte parfois des promotions individuelles, mais qui ne doit pas sombrer dans la compétition sociale exacerbée, car cela menacerait la stabilité de l'ensemble. L'idée selon laquelle l'assignement des positions sociales et des fonctions politiques permet d'éviter que l'hypertrophie des égos et l'hubris des hommes prennent le dessus, se retrouve d'ailleurs dans toutes les civilisations pour défendre diverses formes de logique héréditaire et en particulier la logique monarchique et dynastique. Ordre brahmanique, régime végétarien et patriarcat. De même que dans le cadre du schéma trifonctionnel chrétien, l'ordre brahmanique exprime à sa façon un idéal d'équilibre entre différentes formes de légitimité à gouverner. Dans les deux cas, il s'agit au fond de faire en sorte que la force brute des rois et des guerriers ne néglige pas les sages conseils des clercs et des lettrés, et que le pouvoir politique s'appuie sur les connaissances et le pouvoir intellectuel. Il est intéressant de rappeler que Gandhi, qui reprochait aux Britanniques d'avoir rigidifié les frontières entre castes autrefois fluides afin de mieux diviser et dominer l'Inde, avait dans le même temps une attitude relativement respectueuse et conservatrice face à l'idéal brahmanique. Certes, Gandhi militait pour que la société hindoue devienne moins inégalitaire et plus inclusive vis-à-vis de ses classes les plus basses, en particulier vis-à-vis des Shudras et des intouchables, qui rassemblait des catégories discriminées plus basses encore que les Shudras au sein de l'ordre hindou, placées en marge de la société, parfois du fait d'occupations jugées impropres, liées notamment à l'abattage des animaux et au travail des peaux. Mais Gandhi insistait dans le même temps sur le rôle essentiel joué par les Brahmanes, ou tout du moins par ceux qui se comportaient comme tels à ses yeux, c'est-à-dire sans arrogance et sans âpreté, mais au contraire avec bienveillance et grandeur d'âme, en mettant leur sagesse et leur connaissance de lettrés au service de la société dans son ensemble. Lui-même rattaché au groupe deux fois né des Vaishyas, Gandhi prit dans de nombreux discours publics, en particulier à Tanjore en 1927, la défense de la logique de complémentarité fonctionnelle, qui était selon lui à la base de la société hindoue traditionnelle. En reconnaissant le principe de l'hérédité dans la transmission des talents et des occupations, non pas comme règle absolue et rigide, mais comme un principe général pouvant admettre des exceptions individuelles, le régime des castes permettait selon lui de donner une place à chacun et d'éviter la compétition généralisée entre groupes sociaux, la guerre de tous contre tous, et en particulier la guerre des classes à l'occidentale. Surtout, Gandhi se méfiait plus que tout de la dimension anti-intellectuelle des discours anti-brahmaniques. Il considérait que la sobriété et la sagesse des lettrés, vertus auxquelles il se rattachait par sa pratique personnelle, bien que non brahmane lui-même, étaient des qualités sociales indispensables pour l'harmonie générale. Il se méfiait aussi du matérialisme occidental et de son goût immodéré pour l'accumulation de richesses et de pouvoir. De façon générale, la domination brahmanique a toujours cherché à s'appuyer sur une dimension intellectuelle et civilisatrice, notamment pour ce qui concerne les mœurs et le régime alimentaire. Le refus de l'abattage des animaux et le régime strictement végétarien permettaient par exemple, et permettent toujours, d'exprimer non seulement un idéal de pureté et d'ascétisme, mais également de mettre en avant une vision supposément plus responsable vis-à-vis de la nature et de l'avenir. Un bœuf abattu aujourd'hui permet certes de festoyer, mais prépare mal les labours et les récoltes futures. Labours qui ont pourtant le mérite de nourrir durablement une plus grande communauté que l'alimentation animale. Les brahmanes s'interdisaient également toute consommation d'alcool. Ils s'identifiaient aussi à des mœurs et des règles familiales très strictes, surtout à l'encontre des femmes. Interdiction du remariage des veuves, obligation de l'union des filles à l'âge prépubère sous le contrôle parental, alors que les plus basses castes étaient régulièrement accusées de vivre dans la débauche. Il est important d'insister de nouveau sur le fait que le Manus Smriti, de même que les textes médiévaux des moines et évêques chrétiens décrivant le schéma trifonctionnel, correspond à des schémas théoriques et à des idéotypes politico-idéologiques et non pas à une organisation sociale réelle. On peut, et on doit chercher, selon les auteurs de ces textes, à s'approcher de cette organisation idéale, mais la réalité est inévitablement toujours plus confuse au sein de relations de pouvoir au niveau local. Au haut Moyen-Âge européen, le schéma ternaire apparaît clairement comme une construction normative et idéale, imaginée par quelques clercs davantage que comme une description opératoire de la réalité sociale, qui semble mettre en jeu des élites multiformes, au sein desquelles il est bien difficile de définir les contours d'une seule et même noblesse. Ce n'est que dans les toutes dernières étapes de la transformation des sociétés trifonctionnelles, par exemple avec les recensements des ordres organisés en Suède à partir du milieu du XVIIIe siècle, ou plus généralement avec la redéfinition absolutiste, puis propriétariste et censitaire du schéma ternaire dans les différents pays européens au XVIIIe et XIXe siècle, en particulier au Royaume-Uni et en France, que les catégories ternaires commencent à se durcir, en même temps qu'elles amorcent leur disparition, au terme d'une longue évolution plaçant en son cœur la construction de l'État centralisé moderne et l'unification des statuts juridiques. De même, dans le contexte indien, la société était en pratique composée de milliers de catégories sociales et d'identités enchevêtrées, correspondant en partie à des corporations professionnelles et à des rôles militaires et religieux déterminés, mais aussi à des pratiques alimentaires et religieuses spécifiques, impliquant parfois l'accès à des temples et des lieux différents. Ces milliers de petits groupes distincts, que les Portugais nommèrent castes, castas, quand ils découvrirent l'Inde au début du XVIe siècle, n'avaient qu'une relation très lâche avec les quatre varnas du Manusmriti. Les Britanniques, qui avaient une connaissance principalement livresque et textuelle de la société hindoue, fondée notamment sur la lecture du Manusmriti, qui fut l'un des premiers textes sanscrits traduits en anglais à la fin du XVIIIe siècle, éprouvèrent les plus grandes difficultés pour faire rentrer ces identités professionnelles et culturelles complexes dans le cadre rigide des quatre varnas. C'est pourtant ce qu'ils firent, notamment pour les groupes les plus élevés et les plus bas, car cela leur semblait la meilleure façon d'appréhender et de contrôler la société indienne. C'est de cette rencontre et de ce projet à la fois de connaissance et de domination que sont issus plusieurs traits essentiels de l'Inde contemporaine. La multitude pluriculturelle des Jatis, l'ordre quaternaire des Varnas. Il existe d'ailleurs une confusion originelle majeure autour du mot « caste », qu'il est important de clarifier ici. Le mot « caste » est utilisé le plus souvent pour désigner le micro-groupe professionnel ou culturel, les Jatis en Inde. Mais il est parfois évoqué pour désigner également les quatre grandes classes théoriques du Manusmriti, les Varnas. Il s'agit pourtant de deux réalités très différentes. Les Jatis constituent les unités sociales élémentaires auxquelles s'identifient les personnes concernées au niveau le plus local. Il existe des milliers de Jatis au sein de l'immense sous-continent indien, qui correspondent à des corporations autant qu'à des territoires et régions spécifiques, et qui se mêlent souvent à des identités culturelles, linguistiques, religieuses ou culinaires particulières. Dans le contexte français et européen, il pourrait s'agir des maçons creusois, des menuisiers picards, des nourrices bretonnes, des ramoneurs gallois, des vendangeurs catalans ou des manœuvres polonais. L'une des particularités des Jatis indiennes, et sans doute la principale spécificité du système social indien dans son ensemble, et la persistance jusqu'à nos jours d'un très haut degré d'endogamie matrimoniale à l'intérieur de la djati, même si nous verrons que les taux de mariage exogame ont fortement progressé en milieu urbain. Le point important sur lequel il convient d'insister ici est que les djatis ne correspondent généralement pas à des identités ordonnées de façon hiérarchique. Il s'agit d'identités professionnelles, régionales et culturelles que l'on caractériserait en partie comme des identités nationales, régionales ou ethniques dans le contexte européen ou méditerranéen et qui servent de soubassement à des solidarités horizontales et à des réseaux de sociabilité et non pas à l'ordre vertical et politique des Varnas. La confusion entre Jatis et Varnas provient pour partie de l'histoire indienne elle-même. Une part des élites indiennes a cherché pendant des siècles à organiser la société de façon hiérarchique autour des quatre Varnas, parfois avec quelques succès, mais sans jamais y parvenir totalement et durablement. Elle s'explique également par la tentative du pouvoir colonial britannique de faire rentrer les Jatis dans les Varnas et de donner à l'ensemble une existence bureaucratique et durable dans le cadre de l'État colonial. Comme nous allons le voir, cette tentative a eu pour conséquence de rigidifier considérablement un certain nombre de catégories, à commencer par celle des brahmanes, qui comprenaient elles aussi des centaines de jatis de prêtres et de lettrés à l'identité brahmanique souvent confuse, mais que les Britanniques tenaient à pouvoir identifier comme un bloc au sein de l'Inde tout entière, en partie pour asseoir leur pouvoir au niveau local, et plus généralement pour dominer par la connaissance une société qui leur paraissait infiniment complexe et indéchiffrable.